Lundi 16 octobre, l'info sur RMC.
Il est 6h, Chloé Cambola est là. Les dernières informations, Chloé, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Non, il n'est pas le président des riches. Oui, il continuera à dire ce qu'il croit vrai. Emmanuel Macron défend son style et ses réformes après 5 mois à l'Élysée. Un projet de loi contre les violences sexuelles l'année prochaine. Précision de Marlène Schiappa alors que les témoignages de victimes de harcèlement se comptent par milliers sur Twitter depuis ce week-end. Et puis ne rangez pas encore vos habits d'été. On l'a dit, le lundi au soleil, c'est pour aujourd'hui. Certains, vous l'entendrez, ont un peu de mal à s'habiller. RMC 6h, bienvenue. C'était donc sa première interview télé. Depuis son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron a répondu hier soir à des questions sur ses réformes et aussi beaucoup sur son exercice du pouvoir. Alors que le projet de budget est examiné à partir de demain à l'Assemblée, le chef de l'État s'est défendu d'être le président des riches, regrettant une jalousie française. Il a expliqué le sens de la réforme de l'ISF qui sera désormais concentrée sur la seule fortune immobilière.
Je crois à l'accorder. Il y a des femmes et des hommes qui réussissent dans la société parce qu'ils ont des talents. Et je veux qu'on célèbre toutes ces réussites, chacune et chacun. Il y en a d'autres pour qui la vie est plus dure. Je veux les aider par leur travail à réussir. Et d'autres qui sont fragiles, nous les protégerons. Mais si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Je veux qu'il y ait des femmes et des hommes qui réussissent pour tirer les autres. Par contre, ce que je leur demande, c'est d'être des premiers de cordée. Et donc, ils doivent aussi s'engager dans la société en créant de l'emploi, de l'activité. Je crois à cela.
Emmanuel Macron, qui sur TF1 s'est également défendu de s'en prendre au pouvoir d'achat des retraités. Selon lui, la baisse de la taxe d'habitation compensera dès l'an prochain la hausse de la CSG dans la très grande partie des cas. Surtout, je fais ce que je dis, a résumé le président, qui revendique son parler vrai, tout en affirmant qu'il n'a jamais voulu cliver ou humilier. Emmanuel Macron, très longuement interrogé sur sa fameuse phrase prononcée en Corrèze. Il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas. Le chef de l'État parlait, on le rappelle, d'une usine de fonderie qui n'arrive pas à recruter à 180 km du site de GMES de la Creuse. L'usine a été reprise, mais seuls 120 emplois ont été conservés sur 276. Pierre Galassio a suivi hier soir l'interview du président avec des employés licenciés de la souterraine.
Autour de la table, ils sont 6 réunis pour écouter ensemble le chef de l'État. Jean-Yves a 49 ans et 17 années d'ancienneté chez GMES.
Honnêtement, je pense pas qu'on ait grand-chose ce soir.
Très vite, c'est la douche froide. Emmanuel Macron ne regrette pas ses propos d'il y a 2 semaines en Corrèze, accusant certains salariés de foutre le bordel.
Je continuerai à dire les choses, je continuerai à respirer l'air, à parler à nos concitoyens, à parfois m'emporter quand j'échange avec eux et à dire ce que je crois vrai.
On peut écraser les gens comme on veut. Alors là, je suis écœuré.
Jean-Marc a 53 ans, il travaille chez GMES depuis 31 ans.
Au lieu de faire un petit pseudo mea culpa par rapport à nous, on s'est senti blessé la première fois. Eh bien, il en rajoute une couche et il essaye de nous isoler, de nous extrémiser, alors qu'on ne l'est pas du tout. D'entendre ça, j'ai les boules.
Une opinion partagée par Patrice, il était agent de sécurité chez GMES, il ne cache pas son désespoir.
Est-ce qu'il faut qu'il arrive une catastrophe d'une personne pour qu'on entende les gens? J'ai peur que ça finisse par arriver. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte de la réalité de la chose.
Pour lui et ses collègues, l'interview du président n'a fait qu'ajouter à leur colère.
Les licenciés de GMS sceptiques donc, et d'après un sondage Flash RMC Atlantico à RIS Interactive, un peu moins de la moitié des Français qui ont écouté intégralement le chef de l'État, 46%, ont trouvé Emmanuel Macron convaincant. On retiendra aussi de cette interview qu'il n'a pas été question d'Europe, ni d'environnement et très peu d'international. Sur les sujets de société, le président a souhaité un débat apaisé sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. La discussion sera lancée l'an prochain. Il a aussi parlé du projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles que Marlène Schiappa annonce ce matin dans La Croix, Marion Dubreuil.
Marlène Schiappa veut verbaliser le harcèlement de rue. Elle lance dès cette semaine un groupe de travail pour définir les contours de cette nouvelle infraction entre le harcèlement sexuel et l'injure avant la fin de l'année. Une initiative soutenue par le président car Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir. La lutte contre le harcèlement sera une des priorités de la future police de sécurité du quotidien et en particulier dans les transports. Autre chantier de la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, la protection des mineurs face aux crimes sexuels avec l'allongement des délai de prescription. La ministre est en faveur d'un délai de 30 ans contre 20 ans actuellement. Et enfin, la question du non-consentement présumé des mineurs. Marlène Schiappa veut inscrire dans la loi un âge limite en dessous duquel, pour la justice, un enfant ne peut pas consentir à une relation sexuelle.
Des annonces qui interviennent en plein scandale. Harvey Weinstein, Emmanuel Macron a confirmé hier soir avoir engagé les démarches pour que la Légion d'honneur soit retirée aux producteurs américains, ce qui lui vaut sur Twitter les félicitations de Rose McGowan. Gowan, l'une des cinq femmes qui accusent Weinstein de viol. Twitter, où depuis vendredi soir, des milliers de femmes rapportent les remarques ou les faits de harcèlement sexuel dont elles ont été victimes au travail. C'est le hashtag Balance ton porc, lancé par la journaliste Sandra Muller, qui invite les femmes à donner nom et détails. Attention tout de même au risque de poursuites en diffamation. Alerte Marie Alibert, porte-parole d'Oser le féminisme.
On n'encourage pas nécessairement les femmes à nommer leurs agresseurs parce que quand il n'y a pas eu de procès, elles peuvent être attaquées. On ne veut pas qu'elles s'exposent à davantage de représailles parce qu'on sait bien que quand elles dénoncent les agressions dont elles sont victimes, un des recours des agresseurs et une des défenses, c'est de les accuser de diffamation et autres. J'espère que grâce à ce hashtag, il y aura des agresseurs qui ne sont pas nommés mais que d'autres femmes pourront identifier pour s'en protéger. Je pense que c'est un des effets bénéfiques. Puisque la justice ne les protège pas des agresseurs, il faut que les femmes créent entre elles une solidarité pour se protéger elles-mêmes.
Pour ou contre la dénonciation de harceleurs sur les réseaux sociaux, on vous pose la question dans Bureau de vote ce matin à 9h30 sur RMC. Un appel à la dénonciation d'un autre genre aux États-Unis. Le roi de l'industrie du porno, Larry Flynt, promet d'offrir 10 millions de dollars à quiconque lui apportera des informations susceptibles de faire tomber Donald Trump, des informations compromettantes qui pourraient conduire à la destitution du président américain. Il est 6h06, la Somalie en deuil après l'attentat qui a fait au moins 137 morts et 300 blessés. À Mogadiscio samedi, attaque au camion piégé non revendiqué mais attribué par le président aux islamistes Chebab. La Somalie est confrontée depuis des années à une violence quasi quotidienne, mais cet attentat est présenté comme le plus meurtrier de l'histoire du pays. Julien Antoine.
Ils étaient des centaines hier dans les rues de Mogadiscio pour protester contre cette attaque. La colère gronde alors que le bilan humain s'alourdit au fil des heures. Selon le responsable de la police, il est très difficile d'avoir un chiffre précis parce que les cadavres ont été emmenés vers plusieurs centres médicaux et certains d'entre eux ont été directement pris en charge par leurs proches pour être enterrés. Dans la capitale en deuil, les familles sans nouvelles diffusent des photos sur les réseaux sociaux dans l'espoir de retrouver leurs proches disparus. La Turquie, un des premiers investisseurs du pays, a envoyé un avion ambulance militaire pour prendre en charge des blessés de l'attentat. De son côté, la France, avec le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union africaine, assure son soutien à la Somalie contre le terrorisme.
6 buts, mais pas de vainqueur. 3 partout entre Strasbourg et Marseille. Hier, en clôture de la 9e journée de Ligue 1, l'OM est 4e ce matin, derrière le PSG, Monaco et Saint-Etienne. Et puis le lundi au soleil, c'est une chose qui arrive. Soleil et chaleur aujourd'hui encore au programme, après un très beau week-end. Même si le lundi, c'est un peu moins facile d'en profiter et de s'habiller, Élodie Messager.
Après un week-end estival, Stéphane n'a pas le choix. Salarié dans une entreprise, ce matin, il devra remettre le costard.
C'est sûr qu'après avoir passé du temps les pieds nus et puis d'avoir ressorti les polos, ça va être un peu difficile de se remettre les chaussures de ville, de les lacer, le costume. On va devoir resserrer le dernier bouton. Et je pense que la cravate, on va la garder dans la poche. Hein. Au moins le temps du trajet, on la mettra au dernier moment dans l'ascenseur si c'est nécessaire.
Cet automne particulièrement clément pousse les commerçants comme Gérard à adapter leur stock.
Il fait beau, il fait chaud. Est-ce que vous avez envie d'acheter un manteau, un parka ou une doudoune? Et je vous réponds non. Il faut avoir tout au long de l'année en magasin des vêtements de demi-saison. C'est essentiel. Il faut jouer avec la météo.
Et certains commerçants font appel à des assurances spécialisées pour les protéger en cas de baisse de leur vente à cause de la météo.
Voilà, la cravate dans la poche, on n'a pas ce problème ici.
Non, pas vrai. De cravate. Comme ça, hein, Mathieu.
Bah non.
Non, mais.
Pour la moitié de ceux qui nous écoutent à la radio, bien sûr.
Non, pas de cravate. Papillon, si vous regardez la télé, RMC Découverte, le nœud papillon.
Ouais.
Mais... Vous allez vous y mettre?
Non, pas tous les jours. Non.
Pas tous les jours. Vous portez le nœud papillon de temps à autre.
Non, oui, en fait.
Non, jamais. Non, pas d'accord.
Si, peut-être dans un mariage.
Bon, Anaïs est avec nous avec un parme du plus bel effet. Non, oh, c'est quoi? C'est rose.
Fuchsia
d'un plus bel effet. Et parme, puis, Charlemagnien qui est là, impeccable. Franchement, vous avez regardé la télévision hier soir?
Bah, oui,
le président de la République, tous. Mais sérieux, non, mais on est très très sérieux.
Studieux.
Moi, je. Est-ce que je peux faire deux remarques? Oui, parce qu'on va dire, ça y est, je vais faire deux remarques. Mais j'en fais deux. La première, c'est que une interview à trois, je n'y crois pas. Je le redis, je le dis, je ne pense pas que ça soit efficace pour une interview.
Ça doit être compliqué à gérer, en plus.
Mais c'est très compliqué à gérer. Une interview, c'est du face-à-face. Ça, c'est la première chose. Et puis, la seconde, moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais personnellement, si j'avais fait cette interview, j'aurais commencé par l'état du monde. La menace nucléaire n'a jamais été aussi forte. pardonnez-moi, c'est plus important que l'utilisation du mot bordel. Et puis, j'aurais continué avec l'état du monde qui nous entoure, hein, l'état écologique de la planète, l'environnement. J'aurais continué sur l'Europe, important, il y a un Conseil européen très important cette année, et puis la France, évidemment, revenir sur les propos tenus, les riches, enfin, etc., etc. Je ne sais pas. Chacun fait ce qu'il veut. Les riches, parlons-en, Mathieu Rouault, dans un instant.
Oui, Emmanuel Macron. Puisqu'on parle des riches,
Mathieu Rouault. Puisqu'on parle des riches, Mathieu Rouault.
Il est là.
Non. Mathieu Rouault, on parle des riches.
Oui, si vous voulez, on peut en parler.
D'accord.
Oui.
Est-ce qu'Emmanuel Macron bien, mais... est le président des riches? Oui, non, on y revient dans une minute, 6h10.
RMC. RMC, ça fait débat.
Allez, ça fait débat. L'intervention du président de la République, vous allez réagir. 3216rmc.fr, vous l'avez regardé. Il manquait un canapé en Sky, nous dit Mathieu Béliard hier.
Non, mais ouais, c'est vous vrai. Vous pouvez nous dire ce que c'était vous avez pensé de la déco du
l'analyse politique du
politique. Non. Non, j'ai pas du tout la table de réunion. Vous savez, dans les entreprises, il y a le coin où il y a une table de réunion.
Je pensais pas être classique comme ça, mais en fait, j'ai pas du tout aimé le flashy à l'Elysée comme ça.
Ouais.
Je suis très journée du patrimoine.
Peut-être on était chez Fly.
J'ai dit ça, mais en plus, je suis persuadé que ça coûte très cher. Je suis persuadé que chaque pièce coûte très cher. C'est ça qui est plus vicieux.
Bon, parlons du fond. Emmanuel Macron est-il le président des riches ou pas? On vous pose la question, encore une fois, après l'interview d'hier soir. Bon, l'objectif annoncé était de faire de la pédagogie, de gommer l'image de président des riches que certains opposants lui ont attribué. Emmanuel Macron s'est employé à expliquer ses réformes et notamment celles de l'ISF, Mathieu Rouault.
Oui, parce que cette réforme de l'ISF qui a été présentée par ses opposants ou qui a été vécue aussi par certains Français comme un cadeau fait aux plus riches. Emmanuel Macron en a donc rappelé la philosophie, faire en sorte que les plus aisés ne quittent pas la France et surtout qu'ils investissent leur argent dans l'innovation et l'entreprise.
Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Et nous n'arriverons pas si on ne favorise pas l'investissement dans l'économie française. Et à quoi je me suis engagé? Je me suis engagé à ce que celles et ceux qui réussissent et qui réinvestissent dans l'économie française ne soient pas assujettis à l'ISF.
Emmanuel Macron croit au bon sens, au bon vouloir de ses investisseurs, mais pas Luc Carvounas, député socialiste, pour qui la suppression de l'ISF reste une erreur politique.
Je ne crois pas du tout à cette théorie qu'en permettant à 1% des contribuables d'avoir plus d'argent, cela revivifiera l'économie française. Moi, j'attendais qu'ils reviennent sur le détricotage de l'ISF. Vous savez, ce S, solidarité, c'est nous, les socialistes, qui l'avons porté. Aujourd'hui, cela devient un IFI, un impôt sur la fortune immobilière. Et c'est un cadeau aux plus nantis de ce pays. Ce n'est pas ma façon de porter la justice et l'équité sociale et fiscale.
Bien, l'interview du président, comment donc a-t-elle été reçue, cette interview? Nous avons fait réaliser un sondage par Harris Interactive, ça donne quoi?
Oui, le tout premier, juste après l'interview, Flash Interactive pour RMC et Atlantico, oui. 856 Français interrogés. Emmanuel Macron a convaincu la moitié de ceux qui l'ont écouté intégralement sur les sujets internationaux.
Oui, c'était en fin de course, là, 2-3 questions.
Exactement.
Sur le nucléaire. Le monde est menacé, mais ça fait rien, pas très grave.
Sur la politique économique, il a convaincu 4 Français sur 10, mais seulement 35% sur sa politique sociale. Par ailleurs, 56% considèrent qu'il mène à la fois une politique de droite et de gauche, 38% une politique uniquement de droite, 6% une politique de gauche. Pour le député républicain Damien Abad, Emmanuel Macron n'a tout simplement pas atteint ses objectifs hier soir.
J'ai trouvé un président arrogant, flou. Il est un peu ce président du mépris social qui ne parle qu'à une catégorie de Français. Cette cassure profonde, elle marque bien les limites d'une présidence jupitérienne qui est un peu, je dirais, déconnectée justement des attentes en matière de pouvoir d'achat, d'emploi, mais aussi de lutte contre les insécurités.
Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu le jupitérien. Tiens, le voilà qui revient. Si j'ai bien compris, tous ceux qui s'opposent à Emmanuel Macron l'ont pas trouvé convaincant.
Continue
et puis tous ceux qui supportent Emmanuel Macron l'ont trouvé convaincant.
Absolument. C'est étonnant.
Ah, mais c'est étonnant. Oui, non, mais franchement. Ah, non, mais les réactions politiques, c'est... Non, on est surpris par les réactions politiques.
On aurait pu les enregistrer avant l'émission.
Oui, exactement. Ça, ça les enregistre, ça serait plus facile. Oui, oui. On enregistre. Ça n'a. Quel est l'intérêt des réactions politiques après une émission comme celle-là? Ce qui m'intéresse, ce sont les réactions des Français. Est-ce qu'ils se sont sentis concernés hier soir? Est-ce qu'il y a eu du concret dans cette interview? J'en ai pas entendu beaucoup. Est-ce qu'ils se sont sentis concernés par les propos du président de la République? Bien, nous verrons cela tout à l'heure avec vos réactions au 32-16. Olivier est là. Agent d'entretien à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Jacques.
Vous allez bien, mon cher Olivier?
Oui, très bien, très bien.
Bon, le beau week-end s'est bien passé, Olivier?
Oui, un week-end de travail, on reprend aujourd'hui à 6h du mat. Quoi.
Ah oui, d'accord, oui, bon, d'accord. Bon, vous reprenez, il fait bon, c'est moins désagréable.
Oui, c'est vrai.
Olivier, vous vouliez passer un petit bonjour, je crois.
Oui, je voulais passer un petit bonjour à tout l'espace nautique de Saint-Geneviève-des-Bois, en particulier Sarah, Kelly, Flo, et puis tous les autres, et puis à ma femme Béatrice qui m'écoute peut-être, qui est au travail à Brétigny.
À Brétigny, puis, l'espace nautique de Brétigny.
Non, moi de Sainte-Geneviève.
Pardon, de Brétigny, de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Je me fais engueuler.
Oui, vous avez raison. C'est moi qui dois être engueulé.
Non, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment et continuez comme ça. Ça fait toujours plaisir de vous écouter le bon matin.
Moi aussi, ça me fait plaisir de vous savoir là, mon cher Olivier. Salut à Brétigny-sur-Orge et à Sainte-Geneviève-des-Bois. Merci.
Il n'y a aucun souci. Merci à vous. Très bonne journée.
Très bonne journée, Olivier. Au revoir. Arcachon, il a dû faire beau sur le bassin. Tout le week-end, n'est-ce pas, Géraldine Debray?
Oh oui, il a fait très très beau, 28,5 degrés. C'était des températures qui étaient 9 degrés au-dessus des normales de saison. Le tout avec un océan qui était à 19 degrés, donc finalement, comme en plein mois de juillet. C'était peut-être le week-end le plus beau de tout l'été. Et c'est pas terminé, ça va continuer encore aujourd'hui, avec toujours autant de soleil sur tout le pays. Quelques nuages bas qui vont rester coincés vers la Méditerranée. Du vent en Bretagne, avec des rafales jusqu'à 80 km/h sur la pointe bretonne. Et puis donc, toujours ce soleil et des températures qui vont rester encore très élevées pour aujourd'hui. Pas de changement pour cet après-midi. On va avoir 26 degrés à Lille, à Paris, 27 à Lyon, 28 degrés à Bordeaux, jusqu'à 29 pour Clermont-Ferrand et Biarritz.
Trois titres de l'actualité, les trois titres avec Anaïs Castagnier. Anaïs.
Je fais ce que je dis, je suis là pour transformer la France, je continuerai au même rythme avec la même détermination. Première interview télé hier d'Emmanuel Macron, un président droit dans ses brottes qui défend son style, sa méthode et ses réformes. De nombreuses réactions politiques, discours clair, cap ambitieux, vision précise, c'est ce que dit Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement. Il est le président des riches et du mépris pour ceux qui luttent, dit Éric Coquerel de la France Insoumise. C'est la attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie. Explosion de deux voitures piégées dans la capitale Mogadiscio ce samedi. Au moins 137 morts et près de 300 blessés.
RMC Bourdin Direct. Président Magnin.
Président Magnin, vous allez bien, président?
Très bien.
Depuis hier soir.
Grande soirée.
Très grande soirée. Cette interview d'Emmanuel Macron sur TF1, alors?
D'abord, première question. Mmh. Où avait lieu cette interview? Vous allez me dire, oui, c'était à l'Élysée, mais pas n'importe où. N'importe où, car Anne-Claire Coudray nous a apporté une précision importante.
Nous sommes précisément dans votre bureau de travail.
Voilà, le bureau de travail, à ce qu'il y a un
bureau où on ne travaille pas.
Oui, il y a le bureau de sieste, le bureau de loisirs. Voilà, là, c'était le bureau pour le travail. Alors,
non, c'est le bureau des réunions, vous savez.
Mais sûrement, aussi,
vu la première phrase, tu la prends bim, comme ça, quoi.
Mais elle a commencé comme ça, l'interview. Alors, on est dans le bureau de travail. Pour ce qui est de la parole présidentielle, chacune et chacun a pu noter que le président répétait certaines formules.
Nous serons les uns et les autres, chacune et chacun trouve sa place, les uns et les autres, chacune et chacun, celles et ceux, chacune et chacun, celles et ceux, d'aider celles et ceux, pour aider celles et ceux, à chacune et chacun, que pour celles et ceux, quand certaines ou certains, ce sont celles et ceux qui sont toutes celles et ceux, chacune et chacun, chacune et chacun a sa personnalité.
Et encore, je ne les ai pas tous
suivis.
On aurait pu tenir jusqu'à 6h30 comme ça.
Et chacun.
Chacune et chacun, celles et ceux. Bon, entre deux formules de ce type, Emmanuel Macron a quand même fait passer quelques messages. Il a d'abord tenu à rappeler qu'il avait été élu par les Français, au cas où certains en douteraient encore.
Le président de la République est élu au suffrage universel parce que celui qui a le mandat du peuple souverain, c'est le président de la République. Le mandat qui m'a été donné par le peuple français est conforme au mandat qui m'a été donné. Le mandat qui m'a été donné par notre peuple. Et j'ai été élu par nos concitoyens.
Voilà, je suis président, il fallait le rappeler, visiblement pour Emmanuel Macron, mais attention, pas n'importe quel président. Il avait bien préparé une petite formule pour répondre à cette accusation de président des riches.
Parce que je suis le président de tous les Français, que je suis le président de toutes et tous. Moi, je suis le président de de tous les Français.
Voilà, je suis le président de tous les Français, répété plusieurs fois pendant l'interview.
Et du côté des journalistes.
On va avoir une petite pensée pour Anne-Claire Coudray, qui a passé pas mal de temps hier soir à tenter de poser des questions.
Vous avez parlé,
j'essaie surtout d'agir, mais je pense que ce qui est important par rapport à ce que vous évoquiez, sur plus de la moitié ont des très grandes difficultés.
Pardon, monsieur le président.
Mais c'est très important de vous le dire parce que c'est ce chemin qu'il faut faire.
Justement, nous allons aborder dans le détail.
Qui réconcilie. Je vais juste terminer pour. Et donc, vous le voyez.
Il faut vraiment qu'on aborde la question du chômage.
Cette transformation,
vous y arrivez.
Elle ne tient, elle ne peut se faire que lorsqu'on a. Et ce seront les 20% les plus riches.
On va continuer
quand ils n'en gagnent pas à travers
d'achat.
La réforme de l'ISF.
On va continuer
donc,
à parler
je crois
de pouvoir
que c'est
d'achat
vraiment,
pour une autre catégorie.
Je crois vraiment
si
que c'est une mesure, l'ensemble, parce qu'il faut toujours prendre les choses dans l'ensemble.
Voilà, un peu de mal à couper le président hier soir, Anne-Claire Coudray. Autre instant.
Faut s'imposer là, parce
que. Oui, ça a été compliqué de s'imposer hier soir. On retiendra aussi le petit moment. Tiens, on est entre riches autour de la table.
Moi, je vous regarde, je ne regarde pas des riches. Statistiquement, vous l'êtes au regard des statistiques françaises. Bon.
Comme vous?
Oui. Et alors? Vous voyez bien que tout de suite, ça crée quelque chose qui est dans le vocabulaire. Ce sont ce que j'appelle les passions tristes de la France.
Voilà, un petit moment de malaise hein, quand
c'est
on s'est rendu compte qu'on était...
Oui,
c'est un peu un dîner en ville. Enfin, on ne peut pas conclure sans noter toutes ces nouvelles expressions qui viennent s'ajouter au long dictionnaire du macronisme.
Et parfois, quand on s'approche de la vérité, on s'y brûle. Je ne crois pas au ruissellement pour ma part. Mais je crois à la cordée. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Et moi, je vous fiche mon billet, comme on dit... trivialement. Ce qui est croquignolesque dans le monde où nous vivons.
Voilà, croquignolesque, sûrement le mot de la soirée le plus retweeté hier soir. Croquignolesque à comparer à abracadabrantesque, peut-être de Jacques Chirac, ou bien au perlimpinpin, à la poudre de perlimpinpin, déjà chère à Emmanuel Macron.
Croquignolesque. Oui, ça ressemble à l'abracadabrantesque.
Ça rime en tout cas.
Oui. Bon. Une femme, non, la machine à café, oui, c'est vrai, la machine à café avant, 32-16, la touche 5, la machine... Imaginons, je reviens sur l'interview, et sur ce que vous disiez...
Non, mais sur ce que vous disiez...
La machine à café, combien non, quand même, pour la machine, là, c'est frustrant.
Le SMS, c'est 32-16 le mot
voilà.
Matin.
Voilà. Oui, voilà. Jouer là, et la gagner, le gagnant ou la gagnante avec nous, tout à l'heure à moins 5, 7h moins 5. Mais, non, je reviens sur cette interview du président de la République et les riches. Imaginons que l'un des trois journalistes dit « Oui, mais nous sommes plus riches que vous, monsieur le président. » Parce qu'il est fort probable que les journalistes soient plus riches que... Enfin, gagnent plus que le président de la République qui était là autour de la table. Là, ça aurait jeté un malaise, non?
Ah bah si on avait comparé les patrimoines de tout le monde sur la table, je sais pas si on aurait été très...
Imaginons que... Ah bah oui, c'est vrai.
Là, il y aurait un bon malaise.
D'ailleurs, oui. Ça aurait été amusant.
Dites-moi, notre tour de table...
Vous avez
vu comme ça casse l'ambiance? Allez, parlons pas de tout ça.
Il était figé, là.
Ne parlons pas d'argent, on va se fâcher. L'addition, on partage, comment ça se passe?
Imaginons, parce que s'il y a des journées, mais je suis sûr que je gagne plus que vous, monsieur le président.
Oh là là,
j'ai des tickets resto.
On aurait renversé le bord. Voilà. Bon, Anaïs Castagna, une femme abattue par un chasseur, tuée par un chasseur alors qu'elle se trouvait dans son jardin.
Ça s'est passé à Tossac, dans le nord de l'Aveyron, un homme qui participait à une battue au sanglier. Il pense tirer sur un animal qui est caché derrière une haie. En fait, il va tuer une femme de 60 ans qui était dans son jardin. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. C'est terrible.
Derrière la haie.
Exactement.
Et il tire quand même. Ça bouge un peu. Paf!
Mais c'est...
Une balle. Une route radiateur, Mathieu Béliard. Cette route. Mais qu'est-ce que c'est que cette route?
Désolé, c'est dramatique parce que ce que tu viens de raconter.
Non, on est sur une route radiateur. Ça vous fait rire, une route radiateur.
Jean-Jacques qui raconte la scène et du coup je la voyais.
Ben non,
bref,
mais
je vous emmène sur l'entrée des poids lourds à Saint-Armour.
Les deux là, ils sont insupportables.
Faites-les sortir.
C'est une cour d'école.
Les deux côte
là.
À côte là.
C'est une cour
c'est
d'école.
C'est diabolique.
Là. C'est comme un école.
Alors,
comme
neuf à Saint-Arnoux,
Mathieu. C'est l'expérimentation de Vinci. Hein, c'est cette route radiateur. Vous savez que le bitume, en plein cagnard, en été, ça peut aller jusqu'à 60 degrés. Sauf que ça sert à rien.
C'est très intéressant.
60 degrés l'été, le bitume.
Donc, ce qu'ils ont inventé chez Vinci, c'est une forme de système de radiateur qui récupérerait cette chaleur, qui la stockerait dans le sol et qui pourrait la restituer. soit pour chauffer des immeubles alentours, soit pour dégeler la route, par exemple, en hiver. Et là, ça devient particulièrement intéressant, sauf qu'ils ne veulent pas dire combien ça coûte. Il y a une expérimentation qui est réalisée sur 500 mètres carrés de Power Road, comme elle s'appelle.
Est-il vrai, Mathieu Rouault, que nous ne sommes pas toujours très polis quand nous dormons?
Non, putain, fais chier, tu m'emmerdes.
Ah bon?
Voilà.
Tu
dois
plaisir.
Ah bon, moi aussi, vous me répondez.
Attendez,
là.
Non, c'est plus que
c'était. Mais non, c'était bordel et fainéant, les mots.
Oui, on était, oui, maintenant, on a réagi, là.
C'est les mots qu'on dit le plus en dormant, visiblement. Enquête française auprès de 232 adultes. Il y a seulement 15 personnes qui ont un sommeil parfait. Pour les autres, c'est très agité. On dit beaucoup de choses, beaucoup d'insultes. Le mot putain est utilisé par les participants 800 fois plus la nuit qu'en journée. Et à l'inverse, les formules de politesse n'apparaissent que chez 12 dormeurs observés.
Ah bon. Des gens qui disent s'il vous plaît,
s'il vous plaît, qui ouvre la porte. Merci.
Non, merci.
Après vous.
Merci. Après vous. Je vous présente mes sincères salutations.
Merci d'être avec nous, 6h29.
Notre espace connaissance. Oui. La référence permanente à Hitler, au Troisième Reich, à la Seconde Guerre mondiale. On s'invective, on s'envoie du nazi à la figure. À suivre dans Bourdin Direct, comment Adolf Hitler est-il réellement arrivé au pouvoir en 1933, découverte 360 juste après le journal sur RMC.
Géraldine de Maury, le temps.
Ça continue, oui, comme beau. Ce week-end. Très très beau, du soleil partout, quelques nuages bas qui vont rester vers la Méditerranée. Un peu de vent pour la Bretagne avec des pointes jusqu'à 80 km/h. Mais sinon donc très beau et chaud encore avec des températures qui restent très élevées cet après-midi. On va avoir 26 degrés à Lille, à Paris, 27 à Lyon, 28 à Bordeaux. On pourra aller jusqu'à 29 pour Clermont-Ferrand et Biarritz.
La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi.
Il est 6h31 et Sophie Paolini est là pour les dernières infos. Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Le harcèlement sexuel est la parole qui se libère sur les réseaux sociaux depuis ce week-end. Sur Twitter, des milliers de femmes témoignent derrière le hashtag balance ton porc. Un style assumé et une volonté de poursuivre les réformes engagées. Emmanuel Macron à l'offensive hier soir sur TF1. Que faut-il en retenir? Décryptage dans ce journal. Et puis le téléphone portable proscrit des cours de récré. C'est ce que veut Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Il est l'invité de RMC à 8h35. Dans le Cher, l'expérience est menée depuis la rentrée et c'est un succès. RMC, il est 6h32. Après le retentissement mondial de l'affaire Harvey Weinstein aux États-Unis, c'est une conséquence inattendue en France. Un appel à dénoncer le harcèlement sexuel est devenu viral ce week-end sur Twitter. Une libération de la parole derrière le hashtag balance ton porc qui a suscité des milliers de témoignages sur le réseau social. Toutes racontent l'enfer du harcèlement sur le lieu de travail. Cécile Coste a rencontré l'une de ses victimes.
Été 2014, Camille, 19 ans, fait un stage dans une banque. Très vite, un de ses collègues, Alain, la cinquantaine, tient des propos déplacés.
Est-ce que t'as déjà vu le loup? Enfin, t'as couché avec combien de mecs? Des trucs dans le genre. Pour essayer de m'intégrer un petit peu, je me forçais à rire.
Quelques jours plus tard, la jeune femme voit son collègue feuilleter, hilar, un calendrier pornographique. Sur l'image, une femme nue, les jambes écartées.
Alain a mis le calendrier sous mon nez. Il m'a forcé à regarder, en fait. Et il m'a dit, tu vois, Camille... À la fin du mois, pour toucher ton salaire, il va falloir que tu fasses la même chose.
Profondément choquée, la jeune femme ne prévient pas sa hiérarchie. Si elle a décidé de parler 3 ans après, c'est grâce au témoignage publié sur Twitter par d'autres victimes. Un phénomène positif selon Muriel Salmona, présidente de l'association Mémoire Traumatique.
C'est un changement dans le regard et dans une société qui était colonisée par le discours des agresseurs. S'il y a une reconnaissance et s'il y a une diminution du seuil de tolérance par rapport à ces violences, ça c'est génial.
95% des femmes qui dénoncent sans harcèlement sexuel en entreprise perdraient leur emploi, selon l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail.
Alors êtes-vous pour ou contre la dénonciation des harceleurs sur les réseaux sociaux? On vous pose la question à 9h30 tout à l'heure dans le bureau de vote au 3216 sur RMC. Emmanuel Macron qui a lui annoncé hier soir sur TF1 une procédure de verbalisation plus simple des actes de harcèlement pour qu'il y ait, dit-il, une réponse immédiate. Ce sera l'une des priorités de la police de sécurité du quotidien, promet-il, mais difficile à mettre en pratique, estime pourtant Patrice Ribeiro. C'est le secrétaire général du syndicat de police Synergie.
Tout ce qui tombe sous le coup de la loi est une mission des policiers. En revanche, c'est une infraction qui sera constatée, on va dire, à la volée, mais il n'y aura certainement pas d'équipe de policiers dédiée à cela. Ça, c'est du rêve, avec des policiers qui sont à flux tendu, qui n'arrivent déjà pas à apporter un service de proximité à nos concitoyens, notamment en ce qui concerne les occupations de halls d'immeubles, les vols, les dégradations, les violences urbaines. Donc, on va certainement pas mettre des policiers uniquement pour cette mission. Ce serait mentir à nos concitoyens que de leur faire croire ce genre de choses.
Emmanuel Macron assume sa politique sur le fond et sur la forme. 5 mois après son élection, le chef de l'État a donc défendu ses réformes hier soir sur TF1. 1h15 d'entretien durant lesquels il a réaffirmé sa volonté de mener à bien une transformation radicale du pays. Elisa Bertholomé, vous avez suivi cette intervention et on peut dire que face aux critiques, Emmanuel Macron assume tout.
Oui, président des riches par exemple, cette étiquette qui lui est accolée par l'opposition, Emmanuel Macron la récuse et confirme sa volonté de supprimer l'ISF qu'il qualifie d'hypocrisie française. Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Si on commence à tirer des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Emmanuel Macron assume donc son budget, mais aussi ses réformes, les ordonnances, la hausse de la CSG. Je suis là pour transformer la France et je continuerai au même rythme, déclare-t-il.
Le chef de l'État qui a également voulu faire taire les critiques sur sa politique du logement.
Oui, l'annonce de la baisse de 5 euros des APL cet été avait provoqué un tollé. C'était une mesure d'urgence, une décision de responsabilité difficile, justifie le président. Les APL qui continueront de baisser, mais le chef de l'État n'a pas indiqué de combien. En contrepartie, le gouvernement va demander aux acteurs du logement social d'un peu baisser les loyers, a détaillé le président.
Et puis Elisa, Emmanuel Macron est resté vague aussi sur sa politique étudiante.
La sélection à l'université, autre polémique estivale, on ne sélectionnera plus par tirage au sort à l'université, promet le chef de l'État qui ne donne pas plus de précisions. Non, il préfère mettre l'accent sur l'orientation des plus jeunes et surtout l'apprentissage. Je veux qu'on arrête avec les tabous de l'apprentissage. C'est une filière qui offre de l'emploi. Une bonne chose, a-t-il précisé.
Merci Elisa Bertholomé. 54% des Français qui ont suivi la prestation du chef de l'État dans sa totalité ont été convaincus, selon notre sondage Flash RMC Atlantico Harris Interactive. Du côté des réactions politiques, Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs, Les Républicains, déplore lui un exercice d'autosatisfaction. Jour J pour la révision de la directive sur les travailleurs détachés. Le Parlement européen va se prononcer cet après-midi. Un vote qui est soutenu par la France. C'était d'ailleurs l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Des travailleurs français détachés en France via des sociétés étrangères, eh bien ça existe aussi. Il serait 20 000 dans ce cas aujourd'hui. Un phénomène qui touche plus particulièrement les régions frontalières comme entre la Moselle et le Luxembourg. C'est l'enquête de Nicolas Ropert pour RMC.
En plein travail sur un chantier de Moselle, Daniel, un plaquiste français, est en fait détaché par une société d'intérim luxembourgeoise. Une situation répandue dans cette région frontalière qui lui offre une meilleure rémunération.
Niveau salaire, je gagne 25% à peu près. En plus, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'on fait. Pour moi, ça me va très bien. J'ai tous les avantages du Luxembourg sans les inconvénients.
La pratique est-elle si courante? À Es-sur-Alzette, la deuxième plus grande ville du Luxembourg, 34 agences d'intérim ont pignon sur rue. En rentrant dans l'une d'elles, on nous explique qu'il n'y a aucun problème à être embauché en tant que français comme travailleurs détachés en France. C'est pourtant scandaleux car les cotisations sociales échappent à l'État français, s'insurge Didier Roche. Le président de la Fédération du bâtiment en Moselle dénonce une concurrence déloyale.
Pour nous, c'est inacceptable. Ce sont des jeunes qu'on a formés, qu'on a aidés, à qui on a appris le métier et qui nous quittent parce que le SMIG au Luxembourg, il est à 16 euros de l'heure, parce que les charges sont divisées par deux et nous, on ne peut pas s'aligner.
Plusieurs amendements ont été déposés ces dernières années à l'Assemblée nationale pour interdire cette pratique, sans résultat.
Il a 31 ans et il sera sans doute bientôt le plus jeune dirigeant européen. Sébastien Kurz a remporté les élections législatives en Autriche, signant un retour probable de la droite à la chancellerie, peut-être au prix d'une alliance avec l'extrême droite qui réalise l'un de ses meilleurs scores. Et puis toutes les écoles vont rester fermées en Irlande aujourd'hui en prévision de l'ouragan Ophelia, le plus important jamais enregistré aussi loin à l'est dans l'océan Atlantique. 8 comtés de l'ouest et du sud du pays sont en alerte rouge. Le téléphone portable interdit dans certains collèges de France. C'est une idée que souhaite développer Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h35 tout à l'heure. À Bourges, au collège Littré, le portable est non grata dans la cour de récré depuis la rentrée. Et ça marche plutôt bien, comme l'a constaté Charlotte Perronnet.
Depuis la rentrée, il y a de nouveau du bruit dans la cour. Football, discussion, rigolade, une ambiance retrouvée depuis que le téléphone portable n'est plus autorisé. Odile Després, la principale adjointe, observe les élèves avec fierté.
C'est métamorphosant, ils échangent, ils se rencontrent, ils se sourient, tout simplement, sans écran interposé.
Les élèves sont également plus concentrés et moins fatigués, selon le proviseur Jean-Claude Chevalier.
Depuis qu'ils partaient de la maison, les élèves étaient déjà sur leur jeu et ils arrivent en classe, le cerveau saturé.
Et à la surprise de tous, cette déconnexion ne déplaît pas aux élèves, même les plus connectés, comme Pauline.
Dès que je sortais des cours, je prenais mon téléphone, ça c'était un réflexe. Maintenant, ça me fatigue moins les yeux, les écrans, je suis plus perturbée comme avant.
Et cela évite des jalousies, comme l'explique Nathan.
Ils étaient un peu tous dessus à jouer au nouveau jeu. Moi qui n'en avais pas, je me retrouvais un peu tout seul. Et...
un succès unanime, donc il faut toutefois nuancer.
J'en connais certains dans les toilettes qui, 5 minutes, répondent à 2-3 messages.
Quelques ajustements sont donc peut-être à prévoir d'ici la généralisation de la mesure. Un du ministre de l'Éducation.
Mathieu Le Quintet à Enghien cet après-midi.
Et Sébastien Darras aime le 2 Blue Story et le 14 Vivien Péo. Brahim Asloum fait confiance à l'As Black Atou. Laurent Guédard, quant à lui, retient le 3 Boccaccio et le 6 Archangel Am. 2, 14, As, 3 et 6.
Découverte 360, notre espace connaissance dans un instant. Je reçois François Delpla, qui est historien du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale. J'en ai un peu assez d'entendre les responsables politiques français se rejeter à la figure l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Alors, nous allons tout savoir ou tout revoir avec François Delpla, donc historien qui va nous raconter comment Adolf Hitler est réellement arrivé au pouvoir en 1933 en Allemagne. 6h40, 7h20, à tout de suite.
RMC, Découverte 360.
6h42 sur RMC, oui. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, François Delpla, historien du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale.
François Delpla, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Le nazi, on se jette à la figure l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler chez les politiques français. Les deux plus récentes allusions, Florence Parly, ministre des Armées hier, la rue est ce qui a permis à Hitler d'arriver au pouvoir. Jean-Luc Mélenchon, le 23 septembre dernier, tribune Place de la République, la rue a abattu les nazis. Alors regardons l'histoire ensemble. Hitler s'engage pour l'Allemagne à l'âge de 25 ans, lors du premier conflit mondial. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Hein. 1919, il apparaît pour la première fois dans une manifestation des travailleurs. C'est le début du Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands. L'Allemagne souffre, crise économique. 1923, Adolf Hitler tente un coup d'État, mais il échoue. C'est bien cela, 1923, coup d'État, il échoue?
Oui, tout à fait, il échoue. Le parti s'appelle au début Parti des Travailleurs Allemands en 1919, et c'est au début de 1920 qu'on rajoute l'adjectif national-socialiste. Voilà la toute petite précision que je peux apporter.
Bien, il est emprisonné après son coup d'État, l'échec de son coup d'État. Le parti nazi est interdit, et en prison, il écrit Mein Kampf.
Oui.
Ensuite, il est libéré, 1924, pour bonne conduite. 1929, l'Allemagne atteint les 6 millions de chômeurs. Juillet 32, de violents affrontements opposent les communistes et les nazis avec complicité de la police. C'est cela ?
Oui, on surestime un peu ces affrontements. Hein. Ils sont spectaculaires, plus que meurtriers. Hitler les manipule, c'est le moment de commencer à dire que c'est un grand manipulateur, et les SA, ces bagarreurs de rue, il les lâche un peu comme des molosses, et il les retient aussi, c'est un peu pour faire peur aux bourgeois, et pour se faire attribuer la chancellerie en tant que protecteur contre le désordre.
Oui, protecteur contre le désordre. Hitler réclame la chancellerie, 1932, il se sent fort, novembre 32, nouvelle élection, et les nazis reculent. Fin 1932, le mouvement nazi traverse une phase difficile.
Oui, c'est ce recul qui va le porter au pouvoir, donc ça permet de démolir le préjugé encore extrêmement enraciné chez nos compatriotes et chez nos politiques, et même un peu chez nos historiens, consistant à dire qu'il a été élu démocratiquement, porté au pouvoir par le suffrage universel. C'est faux, il y aurait été plutôt porté par un léger recul électoral de 37% au mois de juillet, à 33% au mois de novembre. À ce moment-là, il fait moins peur. Et à ce moment-là, les politiciens bourgeois qui vont faire une coalition avec lui pour arracher le titre de chancelier pour Hitler au chancelier, au président von Hindenburg, qui était très hostile à cette nomination, ces bourgeois non-nazis expliquent à Hindenburg, par la voix de leur porte-parole von Papen, qui va devenir vice-chancelier, ils expliquent que les nazis, ils en font leur affaire. Et d'ailleurs, l'habileté suprême de dernière minute de Hitler, c'est de ne réclamer qu'un ministère, le ministère de l'Intérieur. Tous les autres, on les laisse aux conservateurs, qui sont d'ailleurs déjà en place.
Oui. Donc, janvier 1933, le 30 janvier, Hitler atteint son but, il est nommé chancelier de la République de Weimar, après un mois d'intrigue, donc au sommet, organisé par Franz von Papen. Mars 1933, il y a des législatives, et là, le parti d'Hitler remporte près de 44% des suffrages.
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'accord électoral du 29 janvier avec von Papen, qu'on fait endosser à Hindenburg, il n'y a pas de dissolution du Reichstag qui est prévue. Hitler aura le droit de gouverner par décret, comme ses prédécesseurs. C'est lui-même qui dit, mais j'aimerais bien avoir une majorité au Reichstag. Alors, il pourrait compléter sa majorité avec le parti catholique Zentrum, en ne laissant, en gros, en dehors que les socialistes et les communistes. C'est arithmétiquement possible. Alors, il fait semblant d'engager des négociations avec le Zentrum. Il les fait capoter au bout d'une heure ou deux. Et après, il va trouver Hindenburg. On est le 1er février. Et il dit au président, écoutez, ça serait quand même bien que notre gouvernement de salut national, la dernière chance avant la guerre civile, que ce gouvernement, il ait une majorité. Monsieur le président, ne pourriez-vous pas dissoudre le Reichstag? Mais à ce moment-là, ça donne un pouvoir beaucoup plus important au ministre de l'Intérieur, qui en plus s'appelle Göring.
Donc, Hitler assoit son pouvoir. Alors, deux choses. Est-ce que il a été conduit au pouvoir par la rue? Peut-on dire ça ou pas?
Absolument pas. Il est conduit au pouvoir, nous l'avons assez dit, par une intrigue de sommet de l'État.
Bon, est-ce qu'il a été chassé par la rue?
Alors, est-ce qu'il a été chassé par la rue? Ça, c'est une hyperbole de Jean-Luc Mélenchon, qui aurait pu passer un peu inaperçu, et qui a été reprise en boucle par ses adversaires.
Oui, d'accord, mais est-ce qu'il a été chassé par la rue, oui ou non?
Alors, il a été chassé de Paris par la rue, on peut dire. C'est-à-dire que Mélenchon fait écho à De Gaulle, tout simplement. De Gaulle qui, le 26 août 1944, dans un discours improvisé, dit Paris par soi-même libéré, en oubliant un tout petit peu le rôle des armées alliées, et y compris de l'armée française, dirigée par le général Leclerc. Donc, voilà, Paris. Oui, la rue s'est soulevée, et la rue a chassé les nazis de Paris, ça peut se dire. Ça peut se dire.
Enfin, Hitler a été battu militairement, quoi.
Et Hitler a un vainqueur qui s'appelle Winston Churchill, qui était tout seul en mai 1940, au moment de l'effondrement de la France.
Et les Russes. Et Staline.
Oui, mais Staline n'aurait rien pu si Churchill n'avait pas tenu le coup en mai 40. Et je dis bien Churchill, je ne dis pas l'Angleterre.
Churchill. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci. Il est bon de rappeler un peu d'histoire parce que ça remet chacun à sa place. 6h49. Merci François Delplat. 6h49, 7h moins 10. 6h49, nous sommes au Lavandou dans le Var. Géraldine Lemorie.
C'est tout le littoral français qui était pris d'assaut ce week-end pour profiter de l'été. Même si vers la Méditerranée, les températures étaient un petit peu plus classiques pour la saison, mais quand même, pas grand monde dans l'eau, malgré une Méditerranée encore à 20 degrés. Il faut dire qu'il y avait un petit vent marin qui n'était pas toujours très agréable. C'est histoire de chipoter. En tout cas, il va faire très beau encore aujourd'hui, avec parfois des nuages bas qui resteront vers la Méditerranée, surtout pour ce matin. Cet après-midi, soleil partout, pas mal de vent en Bretagne avec des rafales jusqu'à 80 km/h et des températures qui vont rester encore très élevées, jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales, jusqu'à 29 degrés pour Biarritz ou Clermont-Ferrand. On va avoir 27 à Lyon, 26 à Lille, à Paris, 23 degrés à Marseille ou encore 20 degrés pour Brest.
Anaïs Castagna,
Les trois titres de l'actualité, Anaïs.
Je continuerai avec le même rythme, la même détermination. Première interview TV d'Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée. Ces réformes porteront leurs fruits dans un an et demi, deux ans selon lui. Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu? Oui, disent 54% de ceux qui ont regardé l'intégralité de l'émission. Sondage Flash RMC Atlantico, Harris Interactive. Et puis le conservateur Sébastien Kurz, 31 ans, vainqueur des élections législatives en Autriche. 31,7% des suffrages pour l'OVP. Selon des projections, le SPO arrive deuxième, le FPO troisième. Faiseur de roi, une coalition avec ce mouvement d'extrême droite. Hypothèse la plus probable.
Hashtag balance ton porc. Êtes-vous pour ou contre la dénonciation de harceleurs sur les réseaux sociaux? C'est dans le bureau de vote ce matin à 9h30 et dans le journal de Chloé Cambrelin à 7h. Tout de suite dans Bourdin Direct, la journée mondiale contre le gaspillage alimentaire avec des solutions. De très simples applications anti-gaspille. Anthony Morel, dans une minute, c'est déjà demain sur RMC.
RMC, c'est déjà demain.
Il est 6h54. C'est l'heure d'Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour Jean-Jacques.
Ça va Anthony?
Ça va très bien.
Très bien?
Ouais.
Lutter contre le gaspillage alimentaire avec son smartphone. C'est maintenant possible.
Ça sert à tout un smartphone.
Est-ce que vous savez, vous le savez Mathieu, qu'un tiers de la nourriture produite dans le monde finit à la poubelle sans être consommée? 30%.
Ouais, moi je l'ai découvert.
Sans être... Mais oui, moi
c'est
aussi.
Massif.
Moi aussi. De nouvelles applications mobiles permettent désormais de repérer et d'acheter à prix réduit les invendus d'une boulangerie ou d'un traiteur. Par exemple, avant qu'il ne soit jeté.
Oui, alors c'est très mal. En fait, c'est vraiment des applis, c'est pas de la haute technologie dont je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est des applis qui sont très intelligentes, très ingénieuses. Alors celle que j'ai téléchargée là s'appelle par exemple Too Good To Go. Et le principe est vraiment assez malin. C'est-à-dire qu'on va mettre en relation des commerçants, des boulangers, des restaurateurs, des traiteurs, des gens qui bossent sur des produits périssables et qui à la fin de la journée ont des invendus. Et puis des gens comme vous et moi, bah, qui veulent faire des bonnes affaires. Donc l'application, elle me géolocalise, elle sait où je suis, elle va me proposer une liste de commerçants qui se trouvent autour de moi, oui, et qui veulent se débarrasser de leurs invendus. Donc là, par exemple, j'ai une boulangerie qui, pour 4 euros au lieu de 10, bah, va me proposer un assortiment de viennoiseries, de pâtisseries, de quiches, de pizza et de pain. Voilà. Donc eux se débarrassent des produits qu'ils n'ont pas pu vendre à la fin de la journée. Et vous,
c'est pas bête du tout.
C'est
ça,
super hein. Malin, franchement. Et donc du coup, vous faites une bonne affaire. Vous récupérez des pains au chocolat qui sont tout à fait mangeables, évidemment. Hein, à la fin de la journée, ils sont quand même pas perdus. Vous passez chercher ça à la sortie du boulot, et ça fonctionne aussi pour un certain nombre de restaurants.
C'est pas bête du tout.
Ah non, c'est vraiment pas mal. Il y a de plus en plus de commerçants qui sont partenaires, et du coup là, dans une zone donnée, bon bah à Paris typiquement, il y a vraiment beaucoup de restaurants, de commerçants, de boulangers qui sont partenaires.
Voilà. Est-ce que ça fonctionne aussi pour les supermarchés?
Absolument. Alors il y a une autre application pour ça,
oui,
qui s'appelle Zéro Gâchis, qui a, oui, été mise au point par des Bretons. Et là, même chose, vous allez entrer soit votre code postal ou l'appli va vous géolocaliser, et on va trouver autour de vous des supermarchés qui proposent des produits qui arrivent en fin de vie. Alors vous savez, maintenant les supermarchés, certains ont des rayons spécifiques, hein, avec la viande qui arrive en fin de vie, etc., avec des promotions. Bah là, on va tout vous lister, supermarché par supermarché, et vous allez pouvoir encore une fois faire des bonnes affaires, récupérer de la viande à moins 50, à moins 70%. Enfin voilà, il y a là encore une application assez intelligente qui s'appelle donc Zéro Gâchis.
Oui, et puis il y a un site qui s'appelle Partage ton frigo.
Voilà, alors Partage ton frigo. alors mais j'ai, oui, même encore mieux.
Alors là,
que
il
ça.
Est pas arrivé celui-là encore. Oui. Tu veux dire qu'avant que je partage mon frigo,
Partage ton frigo, exactement. Et Leftover Swap, c'est des applications qui permettent de partager ses restes. C'est-à-dire que si vous avez fait un gros plat de pâte à la carbonara, eh bien vous allez pouvoir partager ça avec vos voisins par exemple qui sont autour de vous.
Qu'il y a des restes, voilà. Alors je fais une carbo.
Et puis une dernière application propose des idées pour cuisiner ses restes.
Exactement, plutôt que de les jeter.
Hein,
c'est, ouais, quand même. Alors là aussi c'est
vrai que parfois on ne sait plus que faire des restes.
Et ben voilà.
Mais, oui.
Alors là cette application là, elle s'appelle Frigo Magique. Donc
Frigo
vous
Magique.
Vous entrez, c'est très malin, vous entrez les ingrédients. Alors ce que vous avez tout le temps dans votre frigo, je sais pas si vous avez une brique de lait, du beurre, des œufs, et puis bah, les quelques trucs qui vous restent. Donc par exemple, je sais pas, j'ai une boîte d'anchois dans mon placard. Bon ben, on va me proposer toute une liste de recettes avec les anchois et puis les quelques ingrédients dont j'ai noté. On peut lui mettre des défis. Bah déjà, c'est un défi.
Un blanc de volaille, un tube de ketchup.
C'est un peu ça.
Tu vois,
c'est le principe. Il va trouver la recette qui va avec. Et il y a plus de 2 millions de variations de recettes. C'est des recettes maison. Voilà, c'est qui se cuisine en moins d'une demi-heure, je précise. Voilà.
Merci. Oh. Merci. Cyril.
Monsieur Bourdin.
Ça va, Cyril?
Oui, vous.
Vous êtes en haute Loire, hein, Cyril?
C'est exact, oui.
Bon. Agent technique, 22 ans.
Oui.
Vous écoutez la radio, vous regardez la télé le matin?
Qu'est-ce que vous faites? J'écoute la radio.
Vous écoutez la radio. Cyril, vous faites bien d'écouter la radio. Parce que vous avez gagné votre machine à café et les capsules qui vont avec, mon cher Cyril.
C'est super. Je vous remercie, monsieur Bourbin.
Bon, merci. Passez une très bonne journée, Cyril.
Eh ben, merci.
Vraiment.
Merci,
et à très vite.
Merci.
Et à très vite. Merci.
Merci
beaucoup, Cyril. À bientôt.
Merci.
Au revoir. 6h58. Vous êtes sur RMC et RMC Découverte.